Je suis pas sûr de faire le poids là après. Mais bon, après prendre ce caca. Mais j'en ai une pas mal quand même, je l'ai tenté. Le bonheur est disponible. Servez-vous. Ça, c'est une citation, une pratique de Thich Nhat Hanh, un des grands maîtres zen qui est décédé très récemment. Paix à son âme. Et c'est vrai. Cette pratique de la gratitude, c'est une manière d'intégrer la pratique, cette relation à l'expérience, de développer ces compétences du cœur, cet ancrage dans la terre, cette force de la confiance en relation. Si on est suffisamment disponible, on est suffisamment ouvert à regarder ce qu'il y a autour de nous avec ce regard. Quand il dit le bonheur est disponible, c'est qu'en fait, à chaque opportunité, à chaque instant, on a la possibilité de, comme l'ont dit Monica et Sophie, de regarder autour de nous et de profiter, de valoriser, de chérir ce qu'il y a là. Et à nouveau, plutôt qu'un changement de circonstance en tant que tel, c'est plutôt un changement de disposition que cela nécessite. Une manière de se rendre disponible, de se rendre réceptif, réceptive à ce qu'il y a autour de nous, avec cette intention, avec cette culture mentale d'être dans l'appréciation, dans le... la manière de, en quelque sorte, de rendre sacré ce qu'il y a autour de nous. Et c'est difficile, très souvent. On pourrait, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais en tout cas, dans la valeur, dans les valeurs principales du capitalisme, qui est dans son fondement l'utilisation d'un capital afin d'approfondir et d'enrichir pour un futur plus tard, plus tardif, on est en fait dans une logique complètement opposée. C'est-à-dire qu'on utilise un capital, ça a été la grande révolution de la révolution industrielle, on utilise un capital dans l'espoir de pouvoir avoir une certaine production qui va ramener un profit et qui va... rembourser ce capital initialement investi. Et aujourd'hui, on a un monde entier qui est construit sur ce modèle économique, avec qui a une valeur incroyable, qui a permis des révolutions à des niveaux complètement inouïs depuis le début de l'existence de la vie, encore plus humaine. Et en même temps, il y a aussi toute une culture, tout un mouvement qui fait que notre relation à la propriété, notre relation aux objets, notre relation entre nous-mêmes devient beaucoup plus une relation transactionnelle. Une relation où on va voir l'autre comme peut-être une ressource, on va voir la terre comme une ressource, on va voir les animaux comme des ressources. Et évidemment qu'on a besoin de survivre, évidemment qu'on nécessite de certains besoins et que c'est pas une question d'être moraliste et comme quoi le capitalisme c'est catastrophique et il en aurait mieux fallu sans. Mais c'est pour moi un bon rappel que dans ce mode économique qui est prépondérant dans la manière dont la société est organisée, dans la manière dont nous sommes conditionnés en tant qu'identité de consommateur, En fait, on a un mouvement, on a un conditionnement qui va dans le sens opposé du sentiment de l'ingratitude, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et ça, ça a un coût par rapport à notre qualité de vie. Ça a un coût aussi quand on pratique. Tu disais, voilà, je suis ici pour la pratique et je m'attends à ce que la pratique règle tous mes problèmes. Hein? Et c'est pas du tout inattendu. D'ailleurs, je pense que certains, même peut-être tous ici, se retrouveraient là-dedans, en tout cas jusqu'à un certain point. Et donc, dans quelle mesure est-ce que une attitude envers la pratique, une attitude d'ouverture, une attitude de curiosité, une attitude de rendre sacré ce qui surgit à chaque instant plutôt que ce que ça va nous apporter, permet en fait un fruit et un résultat déjà immédiat. Et je crois qu'il y avait un de ces éléments dans ce que Thich Nhat Hanh disait, dans sa phrase, que le bonheur était disponible à tout instant. C'est-à-dire qu'il y a une relation à l'objectif dans le futur qui est, pour certaines choses, très importante. Et l'éveil, la pureté de la confusion intérieure et la dissipation de toutes ces tensions et ces schémas compulsifs et difficiles au niveau émotionnel et corporel, clairement, ne vont pas se libérer en instant. Néanmoins, le fait de pouvoir profiter de chaque instant, que chaque pas soit un pas de joie, ce serait pas extraordinaire ça comme chemin, de ne pas devoir attendre la fin. Et le Bouddha en a parlé. Il a dit le chemin est bon au début, au milieu et à la fin. Il est bon au début, ce que Monica a partagé aussi, grâce à un comportement éthique, un comportement où on n'a pas de regrets par rapport à nos actions. Et ça, quand on pratique, est-ce que quelqu'un ici a fait l'expérience peut-être d'une certaine culpabilité ou d'un regret par rapport à ce qu'on aurait fait dans le passé? Je serais surpris si vous dites non. Parfaits sommes-nous, bien sûr. Et donc, cette qualité éthique, elle nous permet d'être plus dans l'instant, sans se soucier du passé, sans se soucier du futur, ou en tout cas moins. Et donc, on peut vraiment avoir de la gratitude envers notre comportement éthique, quand on l'est. Et ça, c'est vraiment un rappel important qu'on peut se faire, quelque chose auquel on peut toujours se ramener. Même si, bien sûr, c'est jamais parfait. Donc, dans l'étymologie du mot gratitude, littéralement, on dit en remerciement. C'est-à-dire que c'est une action de remerciement. Et Sophie a déjà touché là-dessus. D'ailleurs, quand on a dit qu'on allait tous les trois parler de la gratitude, j'étais un peu déçu de devoir être le dernier, parce que j'étais sûr qu'ils allaient dire des choses que j'allais déjà dire. Donc, du coup, je ne peux pas vous les dire. Mais je vous les dis, je vais vous les dire quand même. Parce que, plutôt que d'être du coup dans un lien transactionnel par rapport à un objet, par rapport à la nature, par rapport au monde, par rapport à l'autre, où on voit l'autre comme la possibilité d'un retour sur investissement, comme dans une logique capitaliste, bah du coup, peut-être qu'on peut être dans une économie du lien, une économie où on valorise la qualité, la personne, l'historique, l'humanité, la vie en face de nous. Et donc, quand on nous donne quelque chose, c'est très difficile d'être parfaitement égal à donner exactement la même chose ou de la même manière. Donc il y a une ambiguïté dans ce lien, pas comme dans la logique financière, qui fait qu'il y a un questionnement. Il y a, est-ce que j'ai donné suffisamment? Est-ce que c'était de la même manière? Est-ce que la personne sent qu'on est plus ou moins égal ou pas? Et là, il y a un échange intuitif, relationnel, qui mène à un lien, hein, un lien affectif, au sein même de la transaction. Et donc le fait d'être reconnaissant de ce qu'on reçoit, une fois qu'on a été rempli nous-mêmes, eh ben, ça nous permet de redonner. Et j'ai une phrase d'un professeur de poésie à Harvard, Lewis Hyde, qui décrit la gratitude de cette manière. Il dit « La gratitude, c'est le travail que l'âme accomplit afin d'effectuer la transformation une fois le cadeau reçu. Jusqu'à ce que le cadeau ait mûri en soi et puisse être transmis. » Il écrit que la gratitude, c'est cette transformation qui agit sur nous quand on reçoit un cadeau, qui nous donne en fait après cet élan de pouvoir redonner. La gratitude, c'est cette qualité mentale qui nous permet de faire cette transmutation de la réception au don. C'est le lien entre le fait de recevoir et la générosité de donner, l'appréciation du cadeau reçu et le partage. Maintenant, je voudrais quand même apporter un peu de piment, parce qu'autrement c'est trop facile. La gratitude est une belle qualité, sans aucun doute. Elle enrichit le cœur, elle apporte plus de couleur à la vie, elle donne du sens aux liens. Toutes des choses qu'on a partagées et avec lesquelles je suis en parfaite adéquation. Et en même temps, attention, n'y a-t-il pas des moments où de pratiquer la gratitude n'est pas adapté ? Est au contraire de renforcer un schéma problématique, pathologique, destructeur. Est-ce qu'on peut être trop rempli de gratitude? Moi, je dirais que par moments, oui. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Mais je dirais que par moments, oui. Parce qu'en fait, certains et certaines d'entre nous, surtout d'ailleurs dans le monde des personnes qui sont attirées par la méditation, l'introspection, le travail sur soi, auront une tendance à être très généreux, à être très à l'écoute, à peut-être ne pas valoriser ses propres besoins et sa manière d'être en fonction de ce qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être tout seul en silence, comme ça on arrête de nous embêter, on peut vivre notre propre truc. Et on n'a pas besoin de constamment prendre la responsabilité des autres. Peut-être certains et certaines se retrouvent sur ce schéma-là. Moi, j'ai vécu ça pendant 10 ans. J'ai dû devenir moine en Thaïlande, j'ai passé 6 mois dans la forêt, juste qu'on me foute la paix. Et bien sûr, je ne l'avais pas verbalisé comme ça, mais il y avait de ça. Et donc, du coup, de pratiquer la gratitude par rapport à qui donne encore plus de valeur aux autres, qui donne encore plus de valeur à ce qui est à l'extérieur de moi, en quelque sorte, par moment, c'était un message que je donnais aux autres, d'abuser encore plus de ce que je donnais déjà. Alors en fait, moi j'ai dû apprendre à être ingrat. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc je nous invite dans cette réflexion et du développement de cette qualité du cœur de la gratitude, évidemment, de la développer, évidemment, d'en profiter, de chérir et d'approfondir cette richesse qui est disponible au niveau du sein de notre perception à chaque instant, et de remarquer dans la relation, dans le monde professionnel, dans le monde tout court, peut-être à quel point, en fait, ça déséquilibre une dynamique relationnelle ou émotionnelle ou envers le monde qui ne nous aide pas. Et pour terminer, je voudrais vous lire une citation d'un, d'un chef de tribu Adenazone, qui est la tribu Iroquois, la confédération Iroquois en Amérique du Nord, qui m'a beaucoup touché. Au début de sa conférence à l'ONU à Genève, où je suis jeune bourgeois, donc du coup, c'était particulièrement proche. Et c'était par rapport à la violence systématique du gouvernement américain par rapport à ses tribus, particulièrement par rapport au vol des terres qu'ils essayaient de faire un appel à l'ONU. Et il a partagé une réflexion qu'ils font en fait au début de chacune de leurs réunions. Donc ce n'était pas particulier, mais bien sûr qu'à l'ONU, c'était inhabituel. Donc je vous la cite, quelques phrases. Les instructions originales que nous, qui marchons sur Terre, ont à exprimer un grand respect, une affection et une gratitude envers tous les esprits qui créent et qui soutiennent la vie. On salue et donne nos remerciements à tous ceux qui soutiennent notre vie. Le maïs, les pois, les citrouilles, les vents et le soleil. Lorsque nous cessons de respecter et exprimer notre gratitude pour ces éléments, alors la vie sera détruite. Et la vie humaine sur cette planète touchera à sa fin. Voilà quelques mots pour clore. Un hymne de gratitude à la Terre. Qui aujourd'hui en a bien besoin. Je vous propose de terminer avec quelques instants en silence. Voilà, quelques minutes de pause avant le repas. Bon appétit.